Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin et de Christian Saint-Paul. Jo Bousquet, qui avait été blessé à la guerre de 14 et qui était paraplégique, donc immobilisé dans un lit de 1917 à 1950, l'année de sa mort, disait ceci. J'ai lu quelque part qu'après avoir traversé une ville morose, la ville morose, c'est Carcassonne, donc avant les années 1950, et on peut dire aujourd'hui que Carcassonne est loin d'être une ville morose, on voyait à mes chevets, disait-il, d'infirmes, les plus jolies filles du monde. C'est vrai, mais ai-je le droit d'écrire que les femmes aiment les monstres ? Les sots parlent ainsi. Mais je témoignerai que l'amour des femmes est le timide reflet d'un inépuisable génie qu'il faut bien nommer charité et dont on ne découvre la surabondance divine qu'à la condition de tomber au-dessous de l'humain. Et cette charité, bien plus haute que la différence des sexes, je sais ce que je dis, capable de verser à un être déchu une joie angélique et doublement perverse, le faisant homme et femme à la fois, monte si haut dans le monde qu'elle est capable d'idéaliser que le plus beau corps du monde y prend l'apparence et la légèreté d'une pensée et ne saurait plus concevoir qu'il est nu, ayant pris dans le cœur le secret d'habiller la lumière. Voilà ce que disait Jo Bousquet dans ce livre qui a été baptisé de Notebook, suivi d'une autre vie, avec une préface de Christian Augère que René Rougerie a publié en 1982. Et ce sont les dernières phrases de ce livre que je viens de vous lire. Alors, habiller la lumière, c'est ce que nous tentons de faire toutes les semaines ici dans cette émission Les Poètes à Radio Occitanie, et ce centre Jo Bousquet maintenant qui rayonne à Carcassonne habille aussi la lumière de la poésie d'une façon, je dirais, permanente, puisque les expositions, les animations se déroulent. Alors, dans les périodes qui viennent, il y a une rencontre, la poétique du fragment Novalis, Saint-Paul-Roux, Jo Bousquet. Saint-Paul-Roux, donc Novalis et Jo Bousquet. Ce sera le samedi 28 janvier à 15h au centre Jo Bousquet et son temps, à la Maison des Mémoires. Vous savez, cette maison Jo Bousquet, là où il habitait. Jo Bousquet, là où il avait cette chambre dans laquelle on défilait les plus grands noms du XXe siècle, les plus grands auteurs, les plus grands artistes du XXe siècle, au 53 rue de Verdun, à Carcassonne. Je vous invite, bien sûr, à aller voir cette maison, Jo Bousquet, mais également à voir toutes les animations de ce centre Jo Bousquet. Alors, Saint-Paul-Roux, vous savez, il est né en 1860, il est mort en 1940 dans des conditions assez terribles, au début de la guerre. Donc Saint-Paul-Roux, il a eu une période parisienne qui était liée au mouvement symboliste. Ça allait des années 1980 à 1904. Et cette période, elle est liée aussi à celle où il quitta volontairement Paris et son milieu littéraire pour s'isoler en pleine forêt des Ardennes belges, à l'hommage que lui rendirent les surréalistes, particulièrement dans les Nouvelles littéraires. C'était en 1924, Saint-Paul-Roux n'aura pas cessé de creuser ce verbe pour sa valeur émancipatrice, pour ce qui donne à voir du monde et de l'homme, pour cette approche de la réalité, de l'irréel, des reposoirs de la procession à la dame à la faux, qu'il avait écrite lors de son séjour dans les Ardennes, à l'œuvre inédite Trésor de l'homme, Besoce du solitaire, Vendange, l'auteur aura approfondi sans limite cette l'imploration du Verbe sous la forme d'une écriture cumulative et sans la moindre fioriture, nous livrant ainsi de façon spontanée et percutante, sous forme de notations, d'aphorismes métaphoriques, ces variations, ces litanies sur ce Verbe et conséquent sur la lumière et le soleil. Alors cette œuvre inédite, une intrication d'éléments sur le fini, infini, la solitude, Dieu, l'imagination et les traditions du futur. Ainsi, Paul Éluard, dans son hommage au Magnifique, surnom de Saint Paul Roux, Saint Paul Roux le Magnifique, un des multiples surnoms qui lui fut attribué, comme on l'appelait également le maître de l'image ou l'enchanteur, Paul Éluard put écrire, je le cite, « Voici un homme qui n'a pas craint de se mêler au peuple insensé de son esprit, de se livrer entièrement au monde parfait de ses rêves et des mots. » Alors ces archives à Saint-Paul-Roux sont déposées au fonds Doucet à Paris et témoignent de ce foisonnement. Voilà. Alors je vous invite, je parlerai peut-être la prochaine fois de Novalis, je vous invite à voir cette exposition au centre Jean Bousquet. Le Verbe, ce Dieu inconnu, donc publié cette fois-ci par le fils de René Rougerie, dont je vous parlais, René Rougerie qui a publié Jean Bousquet, le fils Olivier, donc publie Saint Paul Roux, Le Trésor de l'Homme, à lire absolument, nous en reparlerons dans cette émission, puisque je crois que c'est quand même un événement. En tout cas, n'oubliez pas, si vous pouvez, vous rendre à Carcassonne le samedi 28 janvier à 15h, attention à 15h, c'est un peu plus de bonne heure que d'habitude. Il y aura une rencontre dont où il y aura la politique du fragment Novalis, Saint-Paul Roux et Jean Bousquet. Alors, beaucoup d'envois cette semaine. Je vais à peine les indiquer, les signaler, parce que nous aurons l'occasion d'y revenir, et même pour certaines des publications dont je vais parler, de faire des émissions beaucoup plus consacré à ces publications que maintenant. Alors, la première, c'est un excellent livre des éditions Chêne. Alors, aux éditions Chêne, toujours avec cette élégance de la finition, de l'impression, des livres qui sont de vrais livres de bibliophiles, pour une somme qui est assez dérisoire pour ce que c'est, 23 euros. C'est un livre de Oscar Hahn. Alors Hahn s'écrit H-A-H-N, s'appelle Peine de vie et autres poèmes. C'est traduit de l'espagnol, le chilien, c'est un poète chilien, Oscar Hahn, et c'est préfacé par Josiane Gourinchas, donc aux éditions Chêne, D'une voix à l'autre, dans cette collection D'une voix à l'autre. Et c'est une édition bilingue, Josiane Gourinchas étant traductrice donc d'espagnol. Nous aurons l'occasion de faire une véritable émission sur ce livre qui me semble être un grand événement pour la littérature d'Amérique du Sud, pour la poésie d'Amérique du Sud, à signaler également l'excellent travail de Rémi Durand, dont nous avons toujours parlé ici. Alors, Oscar Hahn, il est né en 1938 à Iquique. Iquique, c'est au nord du Chili. Il a été emprisonné au lendemain du coup d'état de Pinochet, bien sûr, en 1973. Et il décide, dès 1974, de quitter son pays natal pour les États-Unis. Il va à l'université du Maryland, où il avait déjà séjourné, puis à l'université de l'Iowa, où il enseignera la littérature latino-américaine jusqu'à la fin de sa carrière, et il est actuellement professeur émérite de cette université de l'Iowa. Il réside actuellement, l'époque Pinochet est bien terminée, il réside actuellement à Santiago du Chili, il est poète, il est essayiste, il a reçu de nombreux prix, en particulier le prix Pablo Neruda en 2011 et le prix national de littérature en 2012 et le prix Lau international en 2015. Voilà. C'est une des premières traductions françaises donc de Oscar Hahn, ce livre des éditions Chêne, Peine de vie et autres poèmes, traduit par Josiane Gourinchas, qui est professeur agrégé, qui a enseigné à Montpellier, qui habite d'ailleurs toujours cette région de Montpellier, qui se consacre à la découverte, la traduction et la diffusion de poètes de langue espagnole encore inconnus en France, en particulier Oscar Hahn, qu'elle a déjà présenté dans le cadre de festivals et de lectures publiques. Alors, Claude et moi, nous avons connu Josiane Gourinchas, puisque elle le connaissait et elle a travaillé avec Pedro Heras, ce poète espagnol jeune et disparu prématurément, dont nous avons parlé ici, dont nous continuerons de parler. J'espère d'ailleurs que Josiane Gourinchas nous livrera aussi de nouvelles traductions de Pedro Heras. Alors, la poésie de Oscar Hahn, nous dit-elle, est considérée comme l'un des plus importants poète chilien d'aujourd'hui. Oscar Hahn n'avait encore jamais été traduit en français. Autour de larges extraits de Peine de vie, l'un de ses recueils majeurs, ce volume nous invite à un parcours poétique couvrant près de 4 décennies, depuis Art de mourir, qui avait paru en 1977, jusqu'au Miroir communicant, paru en 2015. La poésie d'Oscar Hahn se caractérise par des formes concises, une netteté limpide du vers et une aptitude à embrasser un large horizon de l'expérience humaine. Elle excelle à relier les détails concrets de la vie quotidienne, les situations existentielles ou les événements historiques à une dimension réflexe proche de l'apologue. L'amour, le temps, la solitude, la mort, la chute des tours jumelles, les guerres au Proche-Orient sont autant de thèmes susceptibles de trouver place dans ces poèmes qui allient au naturel de la diction une persuasive unité de forme et d'atmosphère. La voix d'Oscar Hahn porte l'empreinte d'une longue tradition poétique remontant au siècle d'or espagnol, tout en manifestant une évidente aptitude à réélaborer des formes d'oralité populaire. Ni la verve ironique, ni la veine ludique ou fantastique qui se font subtilement jour dans ses poèmes ne le conduisent à perdre un juste contact avec les vérités, les énigmes et les paradoxes des destinées humaines. Je cite Oscar Hahn, « Me charger de moi-même de par le monde n'est pas chose facile. Me défaire de moi ou me laisser abandonner en quelque lieu non plus. » Oscar Hahn, Peine de vie, autre poème, traduit par Josiane Gourinchas, qui nous a fait connaître aussi Josiane Gourinchas, cette dame poète qui habite Malaga, qui est professeure aussi, Chantal Maillard, dont nous avons parlé. Poème de vie et autre poème, Oscar Hahn. La muerte está sentada a los pies de mi cama. La mort est assise au pied de mon lit. Mon lit est défait. Drap sur le sol et couverture sur le point de s'envoler. La mort dit maintenant qu'elle va faire mon lit. Je la supplie que non, qu'elle le laisse défait. Elle insiste et réplique que cette nuit, c'est la date. Elle s'apprête et ajoute que cette nuit, c'est sur elle-même. Je lui réponds, « Comment vais-je mettre des cornes à la vie ?» Elle me dit d'aller au diable. La mort est assise au pied de mon lit. Cette mort obstinée s'est échauffée à mon contact et voudrait me laisser sans suc, comme une figue sèche. J'essaie de la chasser avec une énorme branche. À présent, elle dit qu'elle veut se coucher près de moi, juste pour dormir, que je ne m'inquiète pas. Par égard, je me tais. car je connais sa mauvaise réputation. La mort est assise au pied de mon lit. L'homme au parasol. Cet homme avec un parasol pétrifié dans une rue d'Hiroshima. De quoi voulait-il se protéger ? De l'éclat de 1000 soleils ou de la pluie radioactive qui tombait sur sa tête ? Maintenant, il n'est qu'une poignée de poussière au musée d'Hiroshima. Seulement légende dans la mémoire du monde. Et nous, nous sommes encore moins que cela. Des statues de cendres dans les rues d'Hiroshima, sans parasol, sans légende, sans Hiroshima. Oscar Anne, peine de vie. Violon. Cet arbre, un violon à l'intérieur. Il n'a pas encore été sculpté, mais il est à l'intérieur. Il attend le jour de sa résurrection à l'intérieur de l'arbre. Monsieur Stradivarius a dit « Je dois délivrer ce violon. Je dois lui ôter cette écorce qui l'emprisonne pour le voir respirer à l'air libre. Je dois l'entendre chanter pour moi. » Ce violon a un arbre à l'intérieur. Il a des fleurs qui écoutent sa musique secrète. Il a des oiseaux. Pena de muerte. Peine de mort. Le pire est de se réveiller le matin en pensant que maintenant rien ne peut être pareil. Et il faut se lever, se doucher et préparer le café comme d'habitude et partir au travail comme d'habitude, comme si rien ne s'était passé, alors que tout s'est passé. C'est passé, c'est terminé, a pris fin. C'est mieux ainsi. Et tu avances dans la rue comme un somnambule, en te heurtant aux passants, aux vendeurs de journaux, et tu t'assieds sur un banc de pierre, sans savoir si tu es vivant ou mort, c'est pareil. Car la mort aussi peut-être, une table dans un bar, deux martinis secs et deux lèvres rouges qui prononcent des mots qui tombent comme des couperets. Oscar Anne, peine de vie, autre poème, aux éditions Chêne, collection d'une voix l'autre, traduit par du chilien et préfacé par Josiane Gourin-Chasse. Nous aurons l'occasion, bien entendu, d'y revenir, en particulier sur cette préface et les explications de Josiane Gourin-Chasse. Mais je tenais à le signaler d'ores et déjà pour que vous puissiez vous procurer ce livre. Alors, ensuite, pour les livres, toujours d'ailleurs dans l'Amérique latine, les éditions ERES dans la collection Poepsie, qui est la collection de Daniel Forgeras, traduit cette fois-ci de l'espagnol, l'espagnol d'Argentine, hein, donc quelqu'un qui a dû connaître Oscar Anne. Il s'agit de Rodolfo Alonso, qui est traduit ici par Jacques Ancé. C'est toujours une édition bilingue. Hein. Alors aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes voix poétiques de l'Amérique latine, Rodolfo Alonso, qui publia son œuvre, son premier recueil, pardon, Entre les dents, en 1958. Il avait guère plus de 20 ans à l'époque. Alors, ce titre de Rodolfo Alonso, c'est Entre les dents, hein, publié aux éditions ERES Poepsie. Ce titre est en soi la judicieuse définition d'une esthétique. Entre les dents, on ne peut dire que très peu de choses. Les dents sont un filtre qui, en même temps qu'il fait obstacle à la discutable fluidité du discours courant, contribue en mots comptés à l'absence et à l'essence, pardon, à l'essence même du discours. Alors, Jacques Ancel, on ne le présente pas, hein, c'est un traducteur, essayiste, un critique, et avant tout et surtout, donc poète. Poète comme Rodolfo Alonso, qui a publié plus de 30 livres de poésie édités dans de nombreux pays. Il a été le premier traducteur, Jacques Ancel, de Fernando Pessoa et de Paul Celan. Il a traduit dans le domaine français, Éluard. Rodolfo Alonso qui a traduit dans le domaine français, Éluard, Prévert, Apollinaire, Artaud. Donc c'est lui aussi qui a traduit en espagnol le portugais Fernando Pessoa. Mallarmé, il a traduit aussi Breton, chez Dadé, et puis également Saint-Paul-Roux, dont nous avons parlé tout à l'heure, et ainsi que René Char et même Marguerite Duras. Alors, c'est une collection toujours de poems brefs, hein, cette collection qui est dirigée par Daniel Fougeras, disais-je, et également par Pascal Janot. Excellente collection, c'est aussi une présentation dans un petit coffret, c'est vraiment un très très beau livre, très agréable, un cadeau vraiment à offrir, en plus ça ne coûte que 12 euros. Hein. Entre dientes, entre les dents. La vie qu'on nous donne, celle que nous prenons, celle qui est partout. Arrogante, enflammée, misérable. Utile, présente, nous donnant son visage, nous donnant l'impatience, la fièvre, les sauts de l'enfance, la dure compassion, la compagnie, le rêve infatigable. On nous donne la faim, la rancœur, on nous donne la rigueur des baisers, les baisers, les erreurs, l'indifférence, la confiance. On nous donne la peur, la foi. On nous donne l'appui, les yeux de l'abîme. Le souvenir, la contagion, la lucidité, la grâce, la conscience, la merveille, la parole. On nous donne du temps, le temps à partager, perdu, en jeu. On nous donne les manières, le chant, cette main à droite, le pas à gauche. La misère, l'orgueil, l'espérance. La verdad es la fe. La vérité, c'est la foi. Cette vérité changeante, cette foi qui s'incline, vont-elles donner de l'air à l'air qui va naître, donner un peu de lumière au grand amour? Cette dure vérité, cette foi en armes, qu'auront-elles à donner quand viendra l'heure? Tout autour de toi le vent, visage des prisons, tout autour de toi la vérité nue, grâce endormie, le fer, changement de l'amour. Un peu de fatigue. Ferme la porte, protège-toi. D'autres défendent ta joie. Son souffle croît. Ferme la porte, la main. D'autres défendent l'amour. Ferme la porte, c'est l'aube. D'autres l'ouvriront demain. El poeta busca trabajo. Le poète cherche du travail. Tremble mon verre. Dans ta saveur vont des années, des magies, des jours futurs. Tremble avec moi, brûle, réchauffe le cœur du monde. Entre les dents, donc, de Rodolfo Alonso, réflexion. Po Epsine. Nous aurons l'occasion de revenir. Donc, vous voyez, la poésie d'Amérique latine est en l'honneur ces temps-ci et nous ne pouvons que nous en réjouir. Et puis, nous allons revenir donc à la poésie française, un tout petit instant, avec tout d'abord notre ami Christophe Lévy, dont nous avons eu l'occasion de parler ici, et je pense d'ailleurs de lui consacrer une émission. Christophe Lévy, qui s'est fait connaître essentiellement par Michel Cozem, puisqu'il a publié beaucoup de recueils à Encre Vive. Le dernier, c'était La Cimenterie. Avant, il y avait eu... Ah oui, L'Homme Diverticule, voilà, Encre Vive. Voilà, Faire Cranter, D'or dans ma vie. Tout ça, vous le trouverez dans le site de Michel Cozem, Encre Vive. Et puis, il fait paraître, aux éditions L'Harmattan, un recueil qui s'appelle « Dopamine et consoeur ». C'est dans la collection « Poètes des cinq continents », une collection de L'Harmattan, collection de poésie, et « Espace expérimental ». Alors voici ce que dit Patrice Maltaverne, qui dirige donc ces éditions. D'abord, il cite un long passage de ce recueil, Dopamine. La cataracte scindée par trop de gel, j'écorche ma langue à vous dire pourquoi, ce soir il neige, sur les élans novices, du palefrenier grossiste, vendeur de merde et de purin, et les gosses en redemandent, enfilent leurs doigts dans les prises, délire à droite, délire à gauche, vont et viennent, prêcher la rage. Comme de petits rats crevés, ils dérivent seuls dans des courants alternatifs. J'ai mal. Dopamine et consoeur est une étape importante dans le travail d'écriture de Christophe Lévy. À la poésie de qui, dit Patrice Maltaverne, je suis attentif depuis plusieurs années, l'ayant publié dans le fanzine poétique Traction Brabant. Dans ce livre, non seulement le style de l'auteur se décante, tout en gardant sa puissance. Mais ses préoccupations débouchent sur celles de la plupart des gens qui essaient de continuer à vivre dans un monde de plus en plus violent, livré aux extrémismes religieux ou politiques d'une minorité de personnes. À mes yeux, Dopamine et consoeur restituent avec précision les vibrations d'ordre sismique éprouvées plus ou moins par chacun d'entre nous et qui nous font osciller entre désespoir et révolte. La bonne nouvelle, c'est que la vie des nerfs, celle de la poésie authentique, existe toujours dans ces pages, prête à bondir sur le lecteur. Alors Christophe Lévy, il est né en 1984, il écrit depuis quelques années et après courtes études de droit, il a exercé le métier de libraire puis d'aide-soignant. La lecture et l'écriture sont pour lui une passion dévorante. Mais les réflexions et expériences, voilà ce qui le porte, même si celles-ci ont leurs limites, comme toutes les choses de la vie. Donc il dédie d'ailleurs ce texte, Dopamine et consoeur, ce livre, à sa femme et à sa fille pour la vie. Et puis, eh bien, j'avoue que j'ai commis la préface. Donc de ce recueil, donc préface de Christian Saint-Paul, je vais vous la lire. Je peux m'ensoleiller, se rassure Christophe Lévy dans ce livre de poèmes, Dopamine et consoeur, où l'ombre progresse ravageuse. Il se range à la volonté de Joe Bousquet dont je parlais tout à l'heure. Il faut que chacun habite le côté ensoleillé de sa personne, ce que disait Joe Bousquet. Mais le poète, cloué dans son lit à Carcassonne, avait désigné une autre voie qu'il allait suivre. Il disait, Joe Bousquet, « Sois la poésie de ce qui te brise. » En fragmentant son livre en six parties, sous l'égide chacune d'une substance chimique qui conditionne un état psychique, le poète Christophe Lévy devient la poésie de ce qui le brise. Cette brisure réelle est certainement commune à tout individu doué de conscience et toutefois indiscernable quant à son origine et ambiguë sur sa destinée. je le cite, j'écorche ma langue à vous dire pourquoi j'ai mal à vous dire. La difficulté est d'assumer la plénitude de sa sensibilité qui est son génie. Comme l'a si bien clamé Baudelaire, en dépit des autres, regarde à ta porte et balaye indéfiniment les poussières de toi que les autres n'ont pas bouffées. Oui, les autres nous dévorent inexorablement, comme Saturne dévore ses enfants. Ils ont gagné, c'est certain, nous broutons tous dans le même champ de mine et le rude combat du poète brisé par le concert des vanités. Je cite bien sûr l'auteur. Ce qui prévaut face à ces mortifères vanités qui nous submergent est la mitraille des idées suicidaires. Rien d'étonnant dès lors que Christophe Lévy écrive avec ses larmes la folie et son ombre, des acouphènes de glace fracassent ses oreilles. Celui pour lequel le paradis est mort demeure cependant toujours habité par l'état de création qui est la quintessence même de la vie. Cet état salvateur qu'il a la chance inouïe de connaître nourrit son œuvre de sa révolte pusillanime avec le dessein d'en extraire la rage, les courses assassines jusqu'au fond du gouffre. L'état de création avait expérimenté Jo Bousquet importe plus que l'œuvre est le même. Mais comprenons bien, chez Christophe Lévy, comme chez Jo Bousquet, l'œuvre n'est que le produit de la création. Et les deux notions sont intrinsèquement liées. Le plus difficile n'est pas d'écrire, mais d'être en état d'écrire. Et Dopamine et Concert confirment, après les précédents recueils, touchant par la justesse de ton, abrupte, grinçant, que le poète, funambule sur les bords de l'abîme, bénéficie de cette grâce qu'est l'écriture de poèmes. Christophe Lévy est consacré par la poésie. Ses poèmes sont autant de sacrements, de combats d'un homme qui vit et qui devine ce qui meurt en lui, ce qui agonise et qu'il ne peut retenir. Mais surtout, ses poèmes sont ce qui le porte, bien mieux que les six drogues, vers une inattendue espérance. C'est là certainement qu'il diffère de Francis Jock, un de nos derniers poètes maudits, suicidé à la trentaine dans le printemps 1965. Ses poèmes à Francis Jock déroulaient un long lamento gonflé de violence, sa frustration de ne parvenir ni à une vie ordinaire ni à l'essence même de la vie l'avait muré dans un esseulement haineux. Il évoquait avec une langue brillante l'émotion tranquille, l'horreur de ses expériences psychiatriques. À lui a été refusé le pouvoir d'aimer en liberté, et lorsqu'il s'adresse au Christ, c'est sans concession. Je cite Francis Jock. Sois béni, toi qui me réveillais du fond du coma sulinique, pour m'envoyer sangloter dans une chambre anonyme. Aujourd'hui, j'espère férocement que tu existes, afin qu'un jour, je puisse te cracher à la gueule, librement. S'il y a du Francis Jock chez Christophe Lévy, par le ton violent, le génie de la langue, la fureur, la lucidité noire, je cite Christophe Lévy, un con qui suppure de tendresse animale. Il s'en sépare justement par cette magnifique aptitude sur laquelle il faut s'attarder, sa capacité à s'ensoleiller. Ce « je peux m'ensoleiller » le disqualifie des poètes maudits. « Si tu veux espérer, cesse de craindre », nous a enseigné Sénèque. Christophe Lévy a cette volonté de jeter aux orties la peur qui le taraude. Certes, la multiplicité des voix qu'il perçoit et qu'il égare en tous sens et en tous lieux peut le figer au sol, interdit de voler plus haut que la cime de ses pieds. Mais il a le pouvoir de s'affranchir de cette désespérante pesanteur. Christophe Lévy a le pouvoir de l'amour, Je t'aime, lance-t-il comme une bouée à lui-même. Aime et sois aimé, vis plus fort, fais-le pour moi, fais-le pour toi, démontre la vérité, écoute-toi, relève-toi, toujours. Contrairement à Francis Jioc, Christophe Lévy, face à l'horreur d'un monde qui nous enferme dans sa douloureuse cruauté, a la volonté de ne pas sombrer. Ne salis pas ta chance de vivre, s'exhorte-t-il. Son écriture juste, sans phare, est cette chance de vivre. Dopamine et consoeur de Christophe Lévy, aux éditions L'Harmattan, 10 euros. Je vais lire un extrait, c'est Adrénaline, sécrétée face à un état de stress, un danger. Tout le monde connaît, bien sûr, les montées d'adrénaline. Écoutons Christophe Lévy. Mystère en plein ciel, ma gueule de travers, accoste sur les ailes de la souffrance. Que dire? Leur mousse fane et la déviance décale le rendez-vous au prochain quai. C'est la mise à mort du décembre lancinant, la finitude du corps espérant un dernier ressort revenir sur la brèche. Une question me taraude. Dans cette géole, y aura-t-il quelque chose? J'ai perdu une dent, trois côtes, et la poussière vole dans mes yeux, ma tête saigne, une lumière m'aveugle, plus d'horizon. La flamme, au pouvoir, dévore un à un les petits des villes et des frontières vides. L'estomac se bloque sous l'averse, des torrents bruns déversés dans la gorge. Des entêtes à tout bout de champ, interdit de voler plus haut que la cime de ses pieds, interdit de sourire quand deux gosses s'embrassent, en se caressant la bite puisque, de ratonnade en ratonnade, tout y passe. On appelle à la haine, au dégoût, à la rage, aux tensions, aux errements des civils, encartés du petit jeu des sourds. Dans la ville, les démons s'endorment et les campagnes fusionnent aux décombres instables qui papillonnent la sève comme de petits rats fâchés. C'est la flamme écartelée qui vous ensorcelle, lèche vos couture et démembre vos visages comme de petits SS, fourbes, Gestapo, serviles. Ils dissolvent le discours sur la France qui perdure, qui est dure et qui souffle la démence au travail, au bar du comptoir, dans les chiottes de l'esprit pleines de merde et de vent et du sang sur leurs lèvres et leurs dents et se rasent le crâne. Les chaussures à bout crantés, la ceinture, le canif et la pioche. Au manif, on cassera du bègue et advienne que pourra. Des colères, des souillures, de la bave immonde coulent sur nos guerres intérieures. C'est le fer syncopé des marches assassines qui foudroie d'une lueur sataniste l'écouvillon gracile de notre débouche éviée. Et nous laisserons couler les morceaux de leur peau brûlés du dessous de nos ongles arrachés. C'est la faim qui s'amène, triste et laide et sans rien, à garder de plus qu'une page future dans des livres disparus. Christophe Lévy, Dopamine et consoeur, aux éditions L'Harmattan, collection Poète des cinq continents, 10 euros, pas cher. Alors, il nous reste peu de temps pour aborder les autres publications. Je vous invite à lire sur notre site les-poètes.fr dans la page d'accueil, mais également dans notre chronique parution. L'annonce de la publication de Nouveau Délit, revue de poésie vive, dans le numéro 56, janvier, février, mars 2017. où vous aurez l'éditorial de Cathy Garcia et également le sommaire avec quelques extraits que vous trouverez sur notre site, mais également bien sûr sur le site de la revue Nouveau Délit, la revue Nouveau Délit .hautefort.com. Alors tout de suite, cette revue, vous pouvez vous la procurer. Elle coûte 6 euros, plus le port qui est 1,50 € pour la France, le numéro. Mais vous pouvez vous abonner pour 28 euros, 4 numéros. Donc vous vous abonnez à l'adresse suivante, Association Nouveau Délit, dont les chèques doivent être libellés à l'Association Nouveau Délit. Association Nouveau Délit, Letou, L-E-T-O-U. 46-330 Saint-Cyr-la-Popie. 46-330 Saint-Cyr-la-Popie. Alors, je ne résiste pas au plaisir quand même de vous lire le petit éditorial de Cathy Garcia. Voici donc, dit-elle, le 13e édito de bons vœux pour la nouvelle année, ce qui devrait suffire à porter bonheur parce que, pour ce qui est du stock de formules, il est depuis belle lurette épuisé. Et aussitôt une question vient clignoter dans mon cerveau arborescent. Mais c'est qui cette lurette? Il s'agirait en fait, dixit The Web, de mots inventés, un hybride entre belle et eurette. Eurette signifiant une petite heure. Ce qui est pour le moins étrange, si on considère que toute heure est censée avoir la même durée. En temps, en tout cas, mais peut-être pas en sensation de temps. On sait bien qu'une heure de plaisir passe bien plus vite qu'une heure de galère. Une heure à la plage passe certainement plus vite qu'une heure sous les bombes, pour peu qu'elle tombe à côté. Il en va donc sans doute de même pour les années. Aussi pourrions-nous penser que si nous avons l'impression que ça passe de plus en plus vite, c'est que tout ne va pas si mal pour nous, finalement. Aussi, pourrait-on se souhaiter tout plein de belles lurettes, non? Pour ma part, j'aurais tellement de choses à souhaiter concernant le sort de l'humanité que je préfère me taire et laisser la parole au poète Cathy Garcia. Voilà, quelle intelligence, cet éditorial. Et elle laisse la parole, comme toujours, avec cette générosité extraordinaire qu'elle a. Combien nous l'aimons ici, vraiment, combien nous sommes admiratifs. Elle laisse la parole aux poètes, aux excellents poètes, donc, qui sont publiés dans cette revue. Anna de Sandre, Samaël Stenner, Myriam Ould Hamouda, Saïd Mohamed, Mathias Richard, le tremble au cœur autour d'extraits de Jacques Allemand. Voilà, alors dans les quelques minutes qui nous restent malheureusement, mais je reviendrai bien sûr sur cette revue, je vous invite à aller voir sur notre site, mais également sur le site donc de Nouveau Délit, les extraits qu'elle a mis en ligne de cette revue. Alors c'est toujours très très bien fait, très bien illustré, très très bien illustré, très bien mis en page. L'illustrateur, c'est Patrick Le Divenat, de sang breton, de naissance angevine, d'habitat parisien, bigame, car aime autant le mot, Patrick Le Divenat, que l'image. D'où les associations, parfois, dans des textes ou des collages, inspirés par le souffle, inspirés par la spirale, l'absurde, la poésie des sciences, et bien d'autres choses encore, avec passion. Il a été publié dans une trentaine de revues littéraires et d'autres en ligne. Il a été édité chez Passage d'encre, L'échappée belle, Gros texte, Paysage intérieur, La tête à l'envers, etc. Il a un site http://proserie. Sans accent, .free.fr. Voilà, pour l'illustrateur, je voudrais vous lire un extrait. Je vais vous lire un extrait de Jacques Allemand. Le tremble au cœur, c'est extrait donc le tremble au cœur autour. Les textes que je vais lire sont extraits donc de ce livre. Le bal des mousses. Du foie, 10 fois ils l'ont dit. Ce sera ce soir. Sur le quai, les néons les accostent. Bientôt, la fête sans limite recouvrira le pont ligné. Le même souvenir pour tout vêtement. Go. Dérive frontlante. Petit bout de planète entre les îles aura des rochers amers, des falaises de safre à la proue, des chapiteaux à la place des têtes, au corps, des blessures et leurs miroirs, et puis martingale, le ciel dégagé sans les capitaines, le corps de la mer grand ouvert avec ses livres et ses plans, fini, ce qui en eux n'a pas d'âge, ce qui portait un nom trop lourd pour eux. Voilà, Jacques Allemand. Alors, Jacques Allemand, qui est-il ? Eh bien, il est né à Marseille, dans une famille de marins. D'où cette poésie, hein, peut-être. Professeur de lettres, après de longs séjours en Afrique, Maroc, Côte d'Ivoire, retour en France, près de Valence. Nommé ensuite à Perpignan, il parcourt aujourd'hui l'arc méditerranéen des Pyrénées orientales aux Bouches-du-Rhône et séjourne le plus souvent près de Montpellier, encore un qui est dans cette région, quand il n'est pas en voyage en Europe ou sur d'autres continents. Une thèse sur la poésie de Jules Supervielle, et des choix de poèmes en revue, papier, dont récemment, des cahiers de la rue Ventura, Voix d'encre à l'index, Phoenix, Propos de campagne, Résonance générale, Poésie première et dans les revues numériques, Un certain regard, etc. Voilà. Donc nous aurons l'occasion de revenir sur ce numéro 56 de la revue Nouveau Délit, revue de poésie vive, et sur l'écriture de Jacques Allemand. Dans les quelques minutes qui nous restent, je voudrais signaler également 2 publications. Alors, la première, c'est le dernier numéro de la revue Diérèse. Là aussi, quel travail. Revue Diérèse, Poésie et Littérature, qui publie son numéro 69, avec un exergue, Hélène Mohon, Patrice Dimbre, Daniel Abel. Daniel Abel, que j'avais eu le plaisir d'éditer, je me souviens, dans les années 80. Alors je vous parlerai, c'est un magnifique numéro, comme tous, mais bon, maintenant, c'est tellement habituel, cette prouesse de la revue Diérèse, hein, c'est un véritable livre, hein, 15 euros. 15 euros cette revue pour un livre de 277 ou 278 pages, magnifiquement illustré, couverture vraiment magnifique. Alors, je veux simplement vous dire que vous pouvez vous abonner à cette revue. Le numéro vaut 15 euros plus 3,88 euros de frais de port. Hein, c'est un livre donc qui pèse, hein, d'où ce prix du port. L'abonnement vous coûtera 45 euros et il est adressé à Daniel Martinez, 8 avenue Hoche, 77 330, Ozoir-la-Ferrière. Voilà, vous pouvez aller voir également sur le site d'Irès et les deux Siciles. Il y a un excellent éditorial là aussi Daniel Abel. Que j'aurai le plaisir peut-être de vous lire dans la prochaine émission. Voilà, malheureusement, je dois m'arrêter là. Je vous simplement 2 secondes dire que apparu également toujours aux éditions L'Harmattan. On revient sur des émissions L'Harmattan, donc comme Christophe Lévy. Une anthologie de la poésie grecque 1975-2005 par Kostas Nasikas et Demosthène Agrafiotis, une excellente, excellentissime anthologie dont nous vous parlerons très prochainement, en particulier avec aussi Demosthène Agrafiotis. Voilà, mais je voulais simplement le signaler et vous dire que ce numéro, cette anthologie qui comporte plus de 350 pages, hein, c'est un monument, qui est une anthologie bilingue, hein, bilingue, vous coûtera 35,50 euros et nous en reparlerons largement au cours des émissions qui lui seront consacrées. Il est bon de se rapprocher un petit peu de la Grèce. Voilà, ainsi s'achève cette émission. Claude et moi, nous vous souhaitons, comme d'habitude, une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine à 10h.